Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. En Afrique, la population devrait doubler d'ici à 2050 et il y aura bientôt 1 milliard d'habitants dans les villes de ce continent. Des villes où la classe moyenne se développe, mais les plus pauvres des Africains, ce sont les paysans. Alors ces paysans africains quittent-ils leurs terres, migrent-ils vers les villes? Ces départs sont-ils si importants qu'on puisse parler d'exode rural? Et s'il y a exode rural, est-ce un phénomène positif ou négatif? Cette migration interne s'accompagne-t-elle d'une urbanisation maîtrisée? Voilà de quoi on va parler aujourd'hui dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, avec les deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Jean-Marie Cour.
Bonjour.
Jean-Marie Cour, vous êtes polytechnicien, donc ingénieur, mais aussi économiste et démographe. Et vous avez passé toute votre vie à travailler sur les pays en développement, en particulier au sein d'organisations internationales comme la Banque mondiale ou l'OCDE. Depuis 15 ans, vous êtes un penseur indépendant. Et je viens d'utiliser dans ma présentation de l'émission l'expression « exode rural ». Je sais que c'est une expression que vous n'aimez pas beaucoup. Pourquoi en deux mots ?
Bon, c'est effectivement curieux de parler d'exode rural s'agissant d'Afrique, quand on sait que la population rurale en question, elle aura été multipliée par 5 à dans le Burkina Faso en un siècle, par 7 dans le cas de Madagascar et par 9 au Tchad.
On en reparlera plus avant dans l'émission. Laissez-moi vous présenter notre autre invité, Laurent Bossard. Bonjour.
Bonjour.
Laurent Bossard, vous êtes géographe. Vous avez consacré toute votre vie professionnelle à l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes actuellement directeur du secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest au sein de l'OCDE. En quoi consiste cette fonction et qu'est-ce que c'est que ce Club du Sahel ?
Alors, le Club du Sahel, c'est la seule structure internationale, la seule plateforme internationale qui est totalement dédié aux enjeux régionaux en Afrique de l'Ouest et qui est organisé autour des 3 grandes organisations régionales ouest-africaines et sahéliennes et de leurs partenaires qui pensent, à raison à mon avis, qu'on ne peut rien aborder sérieusement dans cette région sans avoir une perception régionale des enjeux transfrontalières.
Alors vous, en tant que directeur du secrétariat, est-ce que vous êtes un bureaucrate, un technocrate, rivé à son écran d'ordinateur et à son téléphone parisien, ou est-ce que vous vous déplacez? En quoi consiste votre activité?
Alors, est-ce que je suis un technocrate? J'en sais rien, mais je suis un technocrate qui bouge. Et un technocrate qui travaille en permanence effectivement avec les réalités de la région. Oui, l'idée c'est vraiment de fonder toutes les analyses sur les réalités.
Nous allons les voir au cours de cette émission, des reportages bien sûr. Nous irons rejoindre Laetitia Bezin à Tananarive, Jasra Nako à N'Djamena et Yaya Boudani à Ouagadougou. Commençons par planter le décor, si vous voulez bien. Au Burkina Faso, de nombreux jeunes abandonnent leur village pour se rendre à la capitale, Ouagadougou. Ils sont à la recherche d'une vie meilleure, mais leurs espoirs sont souvent déçus. Ils vivent de petits boulots et dorment à la Belle Étoile ou dans des logements de fortune. Tous les matins, ils arpentent les rues de la capitale burkinabé en quête de travail. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Yaya Boudani à Ouagadougou.
Nous sommes à la gare de l'Est à Ouagadougou. Comme tous les matins, Issouf Zeba, cireur de son état, attend les clients à l'entrée. Cela fait bientôt un an qu'il a quitté son village pour la capitale.
Il n'y a pas de travail. Il devait là, ça ne peut pas te nourrir. Voilà, on va venir pour cesser un peu là-dedans, mais le temps est chaud quoi. Si depuis le matin, il n'y a rien, on va faire comment? On va se débrouiller quand même.
Ils sont nombreux à exercer de petits métiers autour de la gare routière. Vendeurs ambulants, cireurs de chaussures, apprentis chauffeurs, manœuvres ou mécaniciens. Tout ce qui leur tombe sous la main, pourvu qu'ils aient un peu d'argent. Ahmed Bonogo est un apprenti chauffeur.
Par jour, on peut avoir 1 500. Donc dans le mois, ça fait 45 000. Avec les 45 000, là, on n'arrive pas à s'en sortir. Parce que tout est dur. Même côté manger, tout est dur, tout est cher. C'est parce que ça ne va pas au village qu'on est venu à Ouaga. On se disait, si on vient à Ouaga, peut-être il va y avoir un changement. Mais de nos jours, on est là, mais vraiment, C'est plus de manger seulement. On n'arrive pas à faire quelque chose de bon.
Chaque trimestre ou semestre, la plupart de ces jeunes expédient de l'argent à leur famille restée au village. Et les sommes transférées varient en fonction de leurs gains.
Non, l'argent est un peu là-bas. Quoi. Ouais, comme il n'y a pas l'argent beaucoup là, c'est un peu seulement on avait là-bas.
Lorsque je gagne un peu d'argent, j'expédie une partie à mes parents au village pour qu'ils se débrouillent avec. Tous les 3 à 4 mois, je peux leur transférer 15 à 20 000 francs CFA.
Une partie de ce qu'ils gagnent est épargnée et elle servira à la mise en œuvre de certains projets.
Si j'ai gagné l'argent, je vais aller construire ma maison, je vais payer mon auto, je vais marier femme et je vais un atelier encore. Moi, je fais mécanique. S'il y a beaucoup de clients, je peux gagner 2 000 francs, 1 500. Parce que nous sommes beaucoup ici. L'argent que je gagne, je mets au corridor. Le jour où je gagne 1 500, je mets 1 000 francs. Si je ne gagne pas l'argent, le jour où je ne mets pas le corridor.
C'est pour construire une maison et gagner une femme. Mais c'est quoi qui rêve. Ouais.
Malheureusement, pour beaucoup parmi eux, le rêve d'une vie meilleure à Ouagadougou s'éloigne de plus en plus. Et face à cette désillusion, de nombreux jeunes pensent déjà à tenter une autre aventure.
Pourquoi les jeunes Africains quittent-ils les campagnes, Laurent Bossard ?
Alors moi, je pense d'abord qu'il faut leur demander à eux. C'est très important. Il faut certainement pas...
On entend leurs explications dans ce reportage de Abou Dhani.
Voilà, mais c'était très intéressant ce reportage parce qu'ils quittent la campagne parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir plus d'opportunités dans les villes. Voilà. Et comme on l'a
entendu... Ils se trompent ?
Je pense qu'ils ne se trompent pas. Il faut pas confondre, et c'est très important, ces histoires personnelles, ces témoignages, etc. Il faut les écouter, il faut adapter les politiques pour essayer d'accompagner ces gens, mais il ne faut pas construire des politiques sur des témoignages seulement individuels. Il faut regarder ce qui se passe sur le temps long. Il faut regarder les nécessités de transformation des sociétés et ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, comme dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. C'est une recomposition globale du peuplement. Centré sur l'urbanisation. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je suis absolument convaincu que cette recomposition vers l'urbanisation est quelque chose de positif et de nécessaire.
Jean-Marie Cour, pourquoi les jeunes quittent-ils les campagnes en Afrique ? Est-ce qu'ils quittent les campagnes d'abord ?
Alors c'est plus compliqué que ça. Ils bougent, ils migrent. Beaucoup de migrations rurales vont de milieu rural vers milieu rural et il est très clair que la population rurale va au marché. Sa principale raison d'être en tant qu'agriculteur, c'est de tirer des revenus monétaires de cette activité, c'est-à-dire trouver des clients pour la production, ce qui les incite à produire. Et ils se rapprochent donc des lieux de commercialisation. Donc, ils migrent des zones enclavées vers des lieux où ils vont trouver des opportunités de vendre leurs produits, avec une demande exprimée par des commerçants qui sont généralement des intermédiaires venant des villes. Toutes les migrations ne vont pas de milieu rural vers les villes, mais de milieu rural enclavées vers des zones où il y a des opportunités économiques, et en particulier celles de vendre sa production et de trouver des acquéreurs.
Mais est-ce que le nombre d'agriculteurs en Afrique subsaharienne diminue ?
Absolument pas. Et il ne diminuera pas avant la fin du siècle. Et ça, c'est une erreur d'optique tout à fait incroyable que continuer à dire que l'agriculture va manquer de bras en Afrique. C'est pas du tout le problème. Et là, on est en face d'un problème que je considère comme d'ordre de nature paradigmatique.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que on a l'habitude de dire que pour produire, il faut de la main-d'œuvre, et que toute personne qui quitte l'agriculture pour aller faire autre chose, du commerce ou aller en ville, est une perte sèche pour la capacité productive en Afrique, qui est totalement erronée. Si l'agriculture continue à satisfaire la demande croissante des villes, C'est parce que chaque agriculteur est en mesure de vendre et de trouver un acquéreur pour cette production. Mais Donc ne craignons pas du tout la disparition des agriculteurs.
Laurent Bossard, on voit tous les jours que l'Afrique importe tant et plus de produits agricoles, de produits alimentaires. J'ai vu un chiffre encore récemment, 35 milliards de dollars l'an dernier en importations alimentaires. Donc il n'y a pas assez de production agricole, pas assez d'agriculteurs.
Bon, je crois qu'il faut regarder les choses de façon plus précise. Je ne sais pas quels sont les chiffres que vous citez. Sans doute implique-t-il les pays du Maghreb qui sont dans une situation tout à fait singulière où, grosso modo, il n'y a plus de terres disponibles et où, effectivement, ils dépendent très largement du marché mondial pour leur alimentation. Les pays du Maghreb, c'est pour la viande, c'est 60, 70, 80% selon les pays d'importation, et pour les céréales, c'est à peu près les mêmes chiffres. Revenons en Afrique subsaharienne. Alors, en Afrique subsaharienne, la tendance que vous décrivez est absolument fausse. La production agricole alimentaire en Afrique subsaharienne est plus précisément en Afrique de l'Ouest que je connais bien, augmente depuis 30 ans plus vite que la population. On importe par tête, pas plus. Donc ces idées sont fondamentalement erronées.
Mais pourquoi est-ce que ces idées erronées circulent alors ?
Parce que il y a probablement une augmentation en volume des importations, mais ces importations restent par tête, si vous voulez, totalement raisonnables. Hein. Des pays réputés très pauvres, réputés très faibles, etc., comme les pays sahéliens, par exemple, le Mali n'importe pas plus de 10% de son alimentation et produit tout le reste. Et sa population double tous les 25 ans. C'est une performance absolument remarquable. La FAO fait un classement mondial des agricultures les plus performantes en termes de croissance. Le Burkina Faso, sur la période 1980 à aujourd'hui à peu près, est classé au 11e rang mondial des agricultures en plus forte croissance, bien devant le Brésil, etc. Le Mali est classé 17e. Là, on parle de classement mondial. Donc, il faut réviser les perceptions à l'aune des chiffres.
Jean-Marie Cour, pourquoi est-ce que ces idées circulent selon lesquelles l'Afrique est de plus en plus dépendante, n'arrive pas à produire, n'arrive pas à se nourrir ?
Écoutez, c'est incroyable ce refus de voir la réalité, d'interpréter les faits dans cette Afrique très profonde et mal connue, hein, que font la plupart des institutions et les médias, incapacité à lire ce qui se passe objectivement et dominé qu'on est par cette vision d'une Afrique qui va mourir de faim et qui sera incapable de se nourrir, etc. C'est vraiment du domaine de l'idéologie. Laurent disait qu'effectivement le taux d'importation alimentaire en Afrique est très faible. Il faut savoir qu'avec cette croissance de la consommation par tête très forte et cette croissance de la population, du nombre de consommateurs, hein, la production d'aujourd'hui en Afrique de l'Ouest équivaut à la demande, aux besoins d'il y a 2 ans. Autrement dit, le système réagit avec 2 ans de retard à la demande croissante. Ce qui est très très faible, beaucoup plus faible que ce qu'on a connu, nous, chez nous, en Europe, en France, du temps de Napoléon III, par exemple. Beaucoup, beaucoup plus faible. L'Afrique de l'Ouest importe moins que la seule Italie, en net, hein, des exportations alimentaires. Donc, vraiment, on refuse de voir la réalité. C'est dramatique. Alors pourquoi, depuis des années, je me bats pour dire, parce que nous sommes victimes, tout le monde est victime, de cette espèce de vision de l'économie qui s'impose depuis pratiquement le début du siècle passé, cette économie classique, néoclassique, hein, qui a été conçue par des experts de pays déjà peuplés et qui ne se rendent pas du tout compte de ce qui se passe en Afrique, région en voie de peuplement. Ayant oublié ce facteur peuplement, c'est-à-dire croissance et redistribution nécessaire de la population, on a bâti tout un système de pensée qui amène à oublier littéralement la dynamique de peuplement qui est en train de se produire. De tous les reportages que j'ai pu lire sur cette question de l'exode rural en Afrique et qui sont nombreux, hein, on en trouve plein sur Internet, aucun, strictement aucun, ne parle de ce problème de la croissance démographique. Et tous s'intéressent effectivement à la misère des migrants qui ont choisi de partir sans jamais nous dire que globalement la population rurale continue d'augmenter, continuera d'augmenter, ainsi que la population agricole.
Oui. Laurent Bossard, on parle de plan Marshall pour cette zone sahélienne. La France vient d'annoncer qu'elle rajoutait 200 millions d'euros aux 600 qu'elle alloue déjà à cette région en aide publique au développement. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un plan Marshall pour enrayer ou pour favoriser ces problèmes, pour enrayer ces problèmes économiques?
Je ne sais pas s'il faut un plan Marshall. Ce que je sais, c'est qu'il faut beaucoup d'argent. Il faut investir massivement dans cette région pour accompagner ce que cette région est en train de faire. C'est-à-dire, je pense que les politiques, le rôle des politiques, c'est d'accompagner les initiatives des gens. Et une des manifestations principales de l'initiative individuelle, de la liberté individuelle de ces personnes, c'est de changer d'endroit en fonction des opportunités. Et je pense que le rôle de l'aide, c'est d'accompagner ces mouvements-là. On a un très très gros retard d'investissement dans ces régions, malgré des infrastructures.
Même dans l'agriculture.
Même dans l'agriculture, même dans l'économie alimentaire, mais je dirais surtout dans les infrastructures en général. Hein, les infrastructures sont très faibles, il n'y a pas assez d'électricité, il n'y a pas assez de routes, etc., etc. Donc il faut investir là et accompagner cette économie qui est, encore une fois, absolument remarquable. Je voulais quand même dire, pour fixer les idées, hein, pour prendre l'exemple du Burkina Faso, parce qu'on a entendu l'exemple de Ouaga, le Burkina Faso, donc au cours des 30 dernières années, sa population a été multipliée par 2,5, la population urbaine par 6, et la population rurale a augmenté de 80%. Malgré cette fantastique croissance démographique et croissance des villes, la production... Je dis bien la production, donc je ne prends pas en compte les importations. La production, théoriquement, donne aujourd'hui 2400 kilocalories par habitant et par jour. C'était 1600 il y a 30 ans. Avec une population qui a fait plus que doubler. Et une population urbaine qui a été multipliée par 6. Donc il y a un dynamisme absolument extraordinaire. Et je pense que le rôle de l'aide, c'est d'accompagner ce dynamisme et non pas d'inventer des politiques pour empêcher et pour contrer ces dynamiques.
Jean-Marie Cour, comment s'explique cette hausse de la production agricole si il y a plus de monde en ville et proportionnellement moins de monde à la campagne ?
C'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure. Ce qui motive un paysan, c'est au-delà de sa sécurité alimentaire propre, lui et sa famille et son village, c'est d'obtenir un revenu monétaire d'une partie de la production qu'il va vendre. Ce qu'il cherche, c'est un client pour la production. Et la liaison entre ville, où se trouve la demande alimentaire, puisqu'il y a très peu d'agriculteurs produisant en ville, nécessairement. Cette demande urbaine est le moteur de la croissance de la production. Et pas... comme on le pense, les projets agricoles ou les stratégies agricoles ou le progrès technique, etc. Tout ça, c'est surajouté. Bien entendu, c'est indispensable de faire de la recherche agronomique, de faire des infrastructures, de construire des périmètres irrigués, etc. Mais le vrai moteur de la croissance de la production, c'est évidemment la demande. Et ce qui caractérise ces pays en voie de peuplement, c'est que pour les biens essentiels, quels qu'ils soient, à commencer par la nourriture, c'est la demande qui est le moteur de l'offre. Et non pas la recherche à tout prix de la croissance de la production pour elle-même, hein, qui est l'objectif. On est beaucoup trop focalisé sur des programmes visant à accroître la production ou la productivité ou les rendements et pas assez préoccupé par la croissance du marché intérieur qui est favorisé par la division du travail entre ceux qui consomment et ceux qui produisent. C'est vrai pour l'alimentation et c'est vrai pour tous les autres biens essentiels.
Nous poursuivons cette conversation, Jean-Marie Cour, Laurent Bossard, dans quelques minutes après un flash d'actualité. Restez à l'écoute sur RFI. Éco d'ici, Éco d'ailleurs revient dans quelques minutes.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré à la question de l'exode rural en Afrique. Deux invités dans ce studio, l'économiste et démographe Jean-Marie Cour et Laurent Bossard, directeur du secrétariat du Club des pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest à l'OCDE. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons vu que les jeunes Africains quittaient les zones rurales, mais pas autant qu'on le croyait, et que surtout leur nombre dans les campagnes restait important, et comment éventuellement ils tomber sur leurs pieds ou pas à l'arrivée. Alors voilà un nouvel exemple de pays africain marqué par ce phénomène, le Tchad. Au Tchad, à la fin de l'hivernage, des centaines de jeunes filles et de garçons quittent les villages pour la capitale où ils exercent de petits métiers afin de subvenir à leurs besoins. Cet exode, qui peut être plus ou moins long, permet à ces jeunes d'améliorer relativement leurs conditions de vie. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Majasra Nako à N'Djamena.
Au bord d'une des grandes avenues de N'Djamena, Abdelkirim, la trentaine vient de finir sa journée de colporteur. Il s'apprête, en ce début de soirée, à aller passer la nuit à l'entrée d'un magasin où il a été embauché comme gardien de nuit. En mettant bout à bout ses deux salaires, il affirme pouvoir arriver à investir au village.
J'envoie une partie de ce que je gagne à ma famille. J'investis le surplus en achetant du bétail. Là, j'ai une dizaine de chèvres au village. J'ai pu aussi construire deux maisons que j'ai couvertes de tôles ondulées.
La petite Clarisse, elle, est venue en ville pour chercher à satisfaire des besoins élémentaires.
Je suis allée travailler comme domestique en ville pour m'acheter des vêtements et des ustensiles pour mon futur foyer.
Selon l'économiste Tudjidinga Wantwal, la ville a besoin du village et cette interaction est bonne pour le développement.
En réalité, l'exode rural n'est pas une mauvaise chose en soi. La plupart des gens qui viennent ici viennent chercher des ressources financières qui vont réinvestir dans l'économie rurale en termes d'achat de moyens de production, en termes de scolarisation des enfants. L'économie réalisée ici sert également à alimenter les parents qui sont restés dans le monde rural.
L'économiste ajoute qu'un autre avantage auquel on ne fait pas attention, c'est que les ruraux, en venant travailler en ville, acquièrent de bonnes pratiques qu'ils transmettent à la campagne.
Le développement, c'est la transformation des structures mentales. Il y a des genres de comportements utiles au développement. En côtoyant les urbains en général, plus éduqués, ils apprennent le savoir-faire, le savoir-vivre et le savoir-être. Ils savent que quand on est malade, on doit aller vers un médecin. Quand une femme est en grossesse, elle doit aller aux consultations prénatales, etc. etc.
Le chercheur alerte cependant sur les conditions d'accueil et le salaire versé à ces ruraux qui ne respectent toujours pas la législation en vigueur.
Un reportage à N'Djamena signé Majasra Nako, Laurent Bossard. Ces ruraux qui arrivent en ville, ils sont quand même très maltraités.
C'est évidemment très très dur et on n'en a pas parlé dans la première partie de l'émission, mais je pense qu'il faut aussi s'interroger sur la façon dont on doit les accompagner et les aider.
Dans les gouvernements agissent.
Quelle politique publique mettons en place pour accompagner cette économie populaire, ce secteur informel comme on l'appelle souvent. Et moi, je trouve que on y fait finalement encore très très peu ou trop peu attention dans les à la fois dans les politiques publiques et dans les programmes d'aide internationale. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner et qu'il faut corriger parce que
concrètement, qu'est-ce que vous souhaitez?
Il faut ces gens travaillent dans la rue, on l'a vu, hein. On ne conçoit pas les villes en considérant que l'atelier du secteur informel, c'est la ville. On a tendance à construire des villes en Afrique un petit peu sur le modèle d'urbanisme qui sont là aussi importés. Il faut tout simplement, par exemple, avoir des trottoirs beaucoup plus larges, il faut des espaces pour accueillir ces gens-là, il faut les laisser se regrouper. Une des grandes difficultés du secteur informel, c'est qu'ils ont du mal à se regrouper. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps en Europe, on avait les rues des bouchers, les rues des tanneurs, etc. Parce que naturellement, les métiers ont tendance à se réunir parce qu'on échange des outils, etc., etc. Il y a toute une série de mesures qu'il faut prendre à l'écoute du secteur informel, mais ce secteur informel n'est pas aujourd'hui dans le viseur de la communauté internationale qui a tendance, parce qu'elle a cette vision venant de son propre univers, que pour créer des emplois, on va créer des emplois de type moderne. Or, c'est ce secteur informel, en grande partie urbain, mais pas seulement urbain, il est aussi rural, qui va continuer d'accueillir l'immense majorité des jeunes entrant sur le marché du travail. Donc, qu'est-ce qu'on fait autour de... Et pour ce secteur informel, c'est la grande question du développement, à mon avis, dans les années à venir.
Le secteur informel rural, Jean-Marie Cour, c'est central dans le développement de l'Afrique ?
Le secteur informel, en général, à condition de comprendre comment il fonctionne. Pour confirmer ce que dit Laurent, ce secteur dit informel, il fait vivre 80% de la population africaine. Il n'y a que l'Afrique moderne dont nous rêvons et que nous aidons et que nous assistons à travers toutes sortes de politiques et de programmes ne concerne que 20% de la population. Et c'est de ces 20%-là qu'on s'occupe, et les 80% restants, ce sont des nuiseurs, des empêcheurs de tourner en rond, dans l'esprit de beaucoup de gens, d'experts et d'institutions, et je suis bien placé pour en parler.
C'est-à-dire
que on ne voit, comme on a vu, souvenez-vous qu'on ne voyait de l'agriculture jusque dans les années 80-90 que les cultures d'exportation. Que des biens, on fabriquait des programmes et des projets pour que l'Afrique exporte, pour pouvoir importer, bien sûr. Bon. C'est la même chose. Quand on regarde les villes, on les voit comme des machines à fabriquer des biens échangeables. C'est le terme, hein. Échangeables, évidemment, sur le marché mondial. Quant à ces petites productions qui sont informelles, on ne veut pas les voir parce que ce n'est pas échangeable.
C'est plus difficilement quantifiable.
Ben alors, on ne veut pas les voir. Donc, on ne les quantifie pas. Donc, on ne cherche pas à les connaître. N'est-ce pas? C'est tout à fait incroyable de voir cette incapacité à comprendre que ce qui se passe aujourd'hui dans ces villes est tout à fait comparable à ce que nous avons connu chez nous un siècle avant, au moment où on était en voie de peuplement. N'est-ce pas? Donc, à tout miser sur les biens échangeables, et donc sur le secteur moderne, le reste, c'est un solde qui finira bien par s'estomper avec la modernisation qu'on attend. Oui, elle arrivera dans 50 ans, dans 60 ans. Que fait-on aujourd'hui? Que doit-on faire aujourd'hui pour, un, voir ce qui s'y passe, deux, s'efforcer de mesurer, comprendre comment ça fonctionne, et comment ça fonctionne, c'est très simple. C'est un secteur qui absorbe, évidemment, cette croissance démographique phénoménale, et inévitable, et connue depuis longtemps, hein. Et donc avec une logique de l'accueil du plus grand nombre, et non pas de la recherche de la compétitivité. Nous sommes obsédés par la compétitivité, production maximale par heure de travail. Alors que le secteur dit informel, en fait l'économie populaire, elle fonctionne avec comme objectif d'accompagner ce flot croissant de population, qui en partie migre d'ailleurs, vient peut-être de la campagne et autres, eh bien, avec une optique d'accueil du maximum et de partage à des niveaux de productivité qui sont ceux compatibles avec l'environnement économique local. Et ça, tant qu'on n'aura pas fait cet effort de compréhension de la logique de cette économie populaire, on aura beau multiplier les initiatives, les objectifs pour le développement durable, etc., rien de tout cela ne fonctionnera.
Voilà. Laurent Bossard, dans le reportage de Matsasra Nako à N'Djamena, on entendait un économiste dire que cet exode rural, c'était plutôt positif, à la fois pour les jeunes qui en retiraient un peu de revenus, et puis pour ce qu'ils apprenaient en ville.
Oui, la ville, c'est l'endroit, l'agglomération humaine, c'est l'endroit où on est, c'est le lieu des échanges d'idées, de la circulation des idées, du développement de peut-être d'autres comportements, etc. Et je peux faire d'ailleurs une parenthèse, mais qui me semble importante. Tous les pays dont on parle sont en très très forte croissance démographique, ont des taux de fertilité qui sont les plus élevés du monde. Hein, le Mali, le Tchad, le Burkina Faso, etc. On fait encore, une femme fait encore 6 ou 7 enfants. Bien. Mais pas dans les villes. La ville est un fantastique accélérateur de transition démographique. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit, comme l'a dit l'économiste, une jeune femme qui arrive en ville, se confronte à d'autres formes de comportement, a accès à d'autres idées et très rapidement commence à faire moins d'enfants, a plus facilement accès à l'éducation, à la santé maternelle et infantile, etc. Donc, je ferme la parenthèse, mais la ville est un accélérateur de libération des femmes et de la transition démographique. L'économiste a aussi dit quelque chose de très important. Il a parlé du lien entre la ville et la campagne. Voilà. On a systématiquement et pendant trop longtemps opposé la campagne à la ville. C'est pour ça qu'on parle d'exode, c'est-à-dire de fuite. C'est très négatif d'un milieu vers un autre, du milieu rural vers le milieu urbain. Alors que ce monsieur nous expliquait très très bien qu'il y a une complémentarité absolument évidente. Jean-Marie Cour, tout à l'heure, a dit que la première des complémentarités, c'est entre celui qui produit à la campagne et celui qui mange en ville. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et des complémentarités économiques, des marchés, des chaînes de valeur. Et c'est ces chaînes de valeur à la fois urbaines et rurales qu'il faut aborder et cesser cette opposition entre le milieu urbain et le milieu rural.
Éco d'ici, éco d'ailleurs, sur RFI, nous parlons des migrations rurales, de l'exode rural en Afrique avec deux invités, Laurent Bossard, directeur du secrétariat du Club des pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest à l'OCDE, et Jean-Marie Cour, économiste et démographe indépendant. Que penser de l'Afrique qui se développe forcément par les villes ? Ce n'est pas une pensée totalement occidentale ? Elle ne peut pas se développer dans les campagnes, Jean-Marie Cour, l'Afrique ?
Mais l'Afrique, elle se développe globalement, et dans les villes aussi, et beaucoup, et même si on ne le voit pas, puisque ce secteur dit informel est absolument occulté, on ne le voit pas dans les comptes économiques, on ne le voit nulle part, eh bien, il est l'économie que nous connaissons en fabrication. Le secteur informel, c'est un incubateur d'apprentissage de l'économie de marché, évidemment.
Mais Laurent Bossard disait tout à l'heure que l'Afrique, c'est une notoriété publique, manque beaucoup d'infrastructures, en particulier dans les villes. Mais comment ces villes peuvent-elles se développer si les migrants qui s'insèrent dans l'informalité ne payent pas de taxes ?
Alors, cette histoire de taxes, c'est une tarte à la crème, hein. Tout le monde paye des taxes. Ces taxes sont informelles et sont plus ou moins mal suivies, c'est sûr. Si les villes sont si mal équipées, qu'elles le sont en Afrique, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que le processus de croissance démographique et donc d'urbanisation est très rapide. Donc, le taux d'investissement indispensable pour accompagner est très élevé. Hein. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a eu très longue période où on a parlé du biais urbain, qui empêchait l'Afrique de se développer. Et donc, on a freiné au maximum les investissements liés à l'urbanisation. Ça a été une période catastrophique, avec un retard considérable à rattraper. Hein. Et on n'accompagne absolument pas cette urbanisation en cours qui se déroule non pas, comme on le voit toujours sur les capitales ou des grandes villes, mais sur une multitude de centres secondaires qui sont largement démunis de tout, avec une décentralisation administrative et théorique, sans aucune référence aux besoins locaux d'information, d'investissement, de peuplement, etc. Donc, le vrai problème, c'est que nous n'avons pas, collectivement, compris que dans cette région en voie de peuplement de la planète, c'est là qu'il fallait investir, et pas uniquement dans les pays déjà peuplés et déjà riches. C'est tout à fait phénoménal de voir que l'aide en question ne va pas aux pays les moins avancés, hein. Elle ne va pas aux pays les moins avancés, qui sont les plus pauvres en voie de peuplement, elle va aux pays qui émergent. Voilà. Et de plus en plus. Quand on regarde comment les maigres fonds consacrés à l'aide au développement sont alloués, ils vont beaucoup plus aux pays qui marchent bien qu'aux pays que l'on qualifie en voie d'émergence et qui rejoignent progressivement le concert des nations développées, qu'aux pays qui sont à la traîne.
Laurent Bossard, sur cette aide publique qui est mal répartie. selon Jean-Marie Coué.
Je pense qu'il faut accompagner les pays en développement à tous les stades de leur développement, mais de façon extrêmement différente. Donc je suis plus nuancé là-dessus. Mais moi, je voudrais revenir quand même sur quelque chose qui me semble absolument fondamental. Il faut cesser, au risque de ne pas être capable d'accompagner le développement de l'Afrique subsaharienne, il faut cesser l'opposition entre le milieu urbain et rural, entre l'économie urbaine et rurale. C'est la même économie.
Mais c'est quand même très différent comme milieu économique.
Je prends l'exemple de la plus grosse économie d'Afrique, le Nigeria, qui est un pays déjà très urbanisé, etc. 40% des gens qui travaillent dans les villes du Nigeria travaillent dans l'agriculture au sens large, dans l'économie agricole. Revenons au Burkina Faso.
Non, restons au Nigeria. Bien. Comment travaillent-ils dans l'économie agricole alors qu'ils sont en ville ?
Eh bien, ils transforment, ils transportent, ils ensachent, ils sèchent, ils fument, ils ont des restaurants de rue, etc., etc. Vous connaissez bien l'Afrique. Regardez la prochaine fois que vous irez à Ouagadougou ou à Sikasso, etc. Regardez autour de vous. Vous allez voir au cœur de ces villes vibrer l'économie agroalimentaire. Et cette économie agroalimentaire urbaine tire l'économie la partie rurale de cette économie agroalimentaire qui est constituée de l'agriculture, mais également il y a beaucoup de transformations en milieu rural, etc. Donc c'est le même univers. Les Africains, la réalité des Africaines, on l'a entendu tout à l'heure, ne fait pas cette opposition entre les milieux. Et l'aide a tendance à saucissonner les réalités. Comment vous aider cette personne qu'on a entendue au Tchad, qui vient quelques mois par an à N'Djamena pour gagner de l'argent pendant la saison sèche parce qu'il n'y a pas de travail en milieu rural? Vous lui faites un projet urbain ou un projet rural? Elle est urbaine et rurale. Donc il faut faire des projets intégrés et cesser d'opposer ces deux milieux parce que ça n'a pas de sens.
Prenons un autre exemple d'émigration rurale, d'exode rural. À Madagascar, ces dernières années, le phénomène s'est amplifié. Un malgache sur trois vit en milieu urbain, selon une étude de la Banque mondiale. C'est la conséquence de la dégradation des activités agricoles, de l'insécurité et de la précarité foncière. La capitale, Tananarive, est la ville qui subit le plus cette pression migratoire. En 10 ans, sa population a triplé pour atteindre près de 3 millions d'habitants, mais la capitale est bien loin de pouvoir accueillir ceux qui fuient la précarité de la vie à la campagne. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Laetitia Bezin à Madagascar.
La Réunion, quelle bidonville au cœur de la capitale. Ici, les maisons en sachet, ces abris de fortune de 4 ou 5 mètres carrés, faits de bois et de bâches, s'alignent par dizaines le long d'un canal. Comme de nombreux anciens agriculteurs, c'est ici que Jean et son épouse se sont installés après avoir quitté leur village natal il y a 3 ans.
Nos 3 filles dorment ici. Là, mes 2 garçons et les 2 petites dorment avec ma femme et moi dans ce lit. C'est très étroit ici, mais vous voyez là, j'ai pu fabriquer un petit compartiment pour pouvoir élever un cochon.
Jean fait survivre sa famille en vendant des bocaux et des flacons vides récupérés dans les bennes à ordures de la ville.
Là-bas, on cultivait des patates douces, du manioc et du riz. Avec nos ventes, on gagnait environ 3000 ou 4500 ariaris par jour. Ici, en ville, on peut gagner dans les 6 000 ariaris par jour, et même plus parfois.
6 000 ariaris, soit 1,60€. Quelques mètres plus loin, Julienne et ses 6 enfants, elle aussi a abandonné sa parcelle de champ pour une maison en sachet à Antananarivo.
À la campagne, je gagnais 2500 ariaris par jour. Je ne pouvais pas vivre avec ça. Tu commences à 7h du matin tous les jours et tu vends à perte. C'est pour ça que j'ai décidé de venir ici. En ville, tu peux trouver des petits boulots tous les jours.
La dernière étude sur l'urbanisation à Madagascar date de 2011. Publiée par la Banque mondiale, elle indique qu'ils sont 200 000 tous les ans à quitter les campagnes malgaches pour s'installer en ville, à la recherche d'activités plus rémunératrices que le travail de la terre ou l'élevage. Erinine Rakutumalal est chercheur à l'Observatoire du foncier.
Les jeunes Jujo, quand ils démarrent leur activité agricole, les terres qu'ils obtiennent de leurs parents par héritage ne suffisent plus à faire vivre le ménage. Donc ils partent en ville pour être des marchands ambulants, des commerçants, des femmes de ménage. Et une fois qu'ils constituent un certain capital, ils reviennent chez eux pour pouvoir acheter des lupins-terres. Dans ce cas-là, on parle surtout de migration temporaire.
Qu'il soit définitif ou temporaire, l'exode rural pèse sur les services publics, les logements et l'emploi dans la capitale. Tine Arilazraï-Rivel est le maire du premier arrondissement d'Antananarive. C'est dans cette partie de la ville que les ruraux se sont installés en majorité.
On a au moins dans les 500 000 migrants qui vivent ici. L'État n'arrive plus à maîtriser la situation parce que les jeunes construisent un peu partout, ils vendent un peu partout. Beaucoup de bidonvilles sont apparus. Économiquement, ça ne rapporte rien à l'État parce que le secteur informel, les gens, ils ne payent pas l'impôt. Le problème, c'est que tout ce qui est activité économiques sont concentrés dans la capitale.
L'exode rural à Madagascar n'entraîne pas forcément la misère, précise la Banque mondiale. Mais dans les villes, l'absence de repères, de soutien familial ou ethnique pour les migrants ruraux compromet fortement leur insertion.
Un reportage signé Laetitia Bezin à Antananarive. Vous en pensez quoi, Laurent Bossard, de ce que vous venez d'entendre? C'est un peu hors de votre zone de travail habituelle, mais vous retrouvez des choses que vous connaissez.
C'est tout à fait, enfin, c'est d'une clarté extraordinaire, ce reportage, où clairement on voit que les gens choisissent d'aller habiter en ville parce que le milieu rural et en particulier l'activité agricole n'est pas capable de les nourrir et qu'ils disent, ils donnent des exemples très très précis du fait qu'ils gagnent plus en ville. Au passage, Julienne, 6 enfants, je crois qu'on a entendu, hein, je pense que parmi ces 6 enfants, il y a sans doute une ou deux petites filles au moins, et ces deux petites filles, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que elles ne feront pas 6 enfants, elles en feront probablement 3 ou 2, etc. Donc, c'est en référence à ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, maintenant la question, encore une fois, c'est quelle politique publique pour accompagner cela? Parce que oui, ces gens souffrent, oui, c'est d'une grande brutalité. Comment est-ce qu'on accompagne cela? Et encore une fois, je pense que l'aide au développement et les politiques publiques devraient impérativement consacrer la priorité à ces gens-là, parce qu'ils sont majoritaires, comme l'a dit Jean-Marie Cour tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait pour ces 80% de gens qui sont et qui seront dans le secteur informel?
Mais vous, Laurent Bossard, vous êtes particulièrement bien placé pour faire passer ce message. Vous travaillez au sein de l'OCDE avec des gens qui ont de l'influence, qui publient des recherches, qui sont écoutés par les grands de ce monde et par les dirigeants, les présidents, les gouvernements. Votre message ne passe pas?
Non. Clairement non. C'est difficile parce que la force des habitudes est puissante, parce que on continue à penser... Les mutations sont tellement rapides sur ce continent. Elles sont d'une telle importance, d'une telle rapidité que, au fond, on a du mal à les suivre et que les appareils politiques, les appareils administratifs, qui sont très pesants, qui sont très réticents à changer, continuent à appliquer des paradigmes et des visions d'il y a 30 ans. Avec encore, effectivement, cette idée que la ville est fondamentalement mauvaise. Or, moi, je dis, de toute façon, cette question n'a pas lieu d'être. Nous sommes en train de basculer vers une Afrique majoritairement urbaine. La réalité est là, donc qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas nier ça. Or, aujourd'hui, dans les appareils d'aide au développement, je pense qu'il y a encore cette vision fondamentalement ruraliste et agricole du développement.
Jean-Marie Cour, ça vous désespère que Laurent Bossard ne parvienne pas à faire passer ce message que vous portez également?
En tout cas, ce que vient de dire Laurent est parfaitement limpide. Ces messages ne passent pas. Et il va donc falloir, d'une manière ou d'une autre, arriver à faire comprendre que le fond du problème, c'est le problème du paradigme, n'est-ce pas? L'OCDE, pour le mentionner, hein, figurez-vous qu'il a publié un rapport récent sur l'investissement agricole au Burkina Faso et promeut l'entrepreneuriat rural, la croissance de la productivité paysanne, etc., sans jamais mentionner, dans aucune de ces 135 pages, les mots et les concepts de ville, de milieu urbain, ni a fortiori d'urbanisation, et donc de modification des rapports de force urbain-rural, ni évidemment d'interaction entre les villes et l'interland rural. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous redire qu'il y a une sorte d'omerta qui interdit de parler de ces questions. On réédite les ouvrages de M. René Dumont tous les 3 ans, et ils sont donc recités, alors que des études qui ont été faites dans les années 80, puis 90, puis 2000, où toutes ces questions qu'on évoque aujourd'hui étaient parfaitement exprimées, hein, ces études-là sont passées sous silence, plus personne ne s'en occupe, plus personne ne sait où elles sont, plus personne ne les cite. D'accord ? Donc, voilà un problème tout à fait fondamental. On n'en sortira pas, hein, uniquement par des ajustements mineurs. Il faut revoir fondamentalement nos processus mentaux. Que se passe-t-il dans la partie de la planète qui est en voie de peuplement rapide ? Il se passe des choses qui sont tout à fait comparables à ce qui se passait dans les pays, les nôtres, qui sont maintenant peuplés, mais qui n'ont pas toujours été, qui ont été en voie de peuplement à certaines époques.
Merci Jean-Marie Court, merci Laurent Bossard. Cette émission est maintenant terminée. Guillaume Munier l'a réalisée et mise en onde. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.